Alors cette semaine, Suzanne et moi, on a fait quelque chose qu'on n'a pas très souvent l'occasion de faire. On a regardé un film. On a regardé un film ensemble, un DVD. Et je ne vais pas vous donner le nom du film pour ne pas vous gâcher le film au cas où vous auriez l'occasion de le voir prochainement. Mais ce film raconte, et si vous l'avez vu, vous allez sans doute reconnaître l'histoire. Ce film raconte l'histoire d'un homme qui est profondément rongé et même tourmenté par le remords après avoir provoqué involontairement, mais malgré tout à cause d'une négligence de sa part, eh bien, un accident de voiture qui a entraîné la mort de 7 personnes. Et à la suite de cet événement, cet homme n'a plus qu'une seule idée en tête, qu'un seul objectif, une seule obsession. Il veut se racheter. Mais comment se racheter d'une faute dont les conséquences ont été irrémédiables? Qu'est-ce que cet homme pourrait bien faire ou dire ou offrir pour être délivré de cette culpabilité, de ce remords qui le ronge, qui le détruit à l'intérieur? Et bien dans le film, cet homme va être poussé de façon irrépressible, il va être poussé à trouver 7 autres personnes qu'il va juger méritantes. Et il va leur offrir une vie nouvelle, une vie heureuse, au détriment de sa vie, au détriment de la sienne. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire don, par exemple, de sa grande maison, parce que c'est quelqu'un d'aisé. Il va faire don de sa maison, et il va faire don de ses richesses à ces gens, et même, il va faire don de ses organes, pour sauver, entre guillemets, la vie de ces 7 autres personnes qu'il juge méritantes et qui sont dans le besoin. Et ainsi, il espère se racheter de la mort des 7 victimes de l'accident de la route qu'il a provoqué. Vous voyez? Et une de ces personnes méritantes qu'il va rencontrer, c'est une jeune femme qui souffre d'une insuffisance cardiaque très sérieuse. Et figurez-vous que cet homme va tomber amoureux de cette femme souffrant d'une insuffisance cardiaque. Et à la fin du film, vous avez peut-être deviné ce qui se passe, à la fin du film, notre héros se suicide pour que son cœur puisse être transplanté à cette femme et pour qu'elle, qui n'avait que quelques semaines à vivre, puisse vivre une vie longue et heureuse. Une belle histoire, non? Non, on est d'accord, c'est pas une belle histoire. En fait, ce n'est pas du tout une belle histoire. C'est une histoire lugubre et franchement pessimiste, et cela pour deux raisons. D'abord parce que malgré tous ses efforts, malgré tous ses sacrifices, eh bien, cet homme ne fait à aucun moment l'expérience d'une vraie rédemption. À aucun moment cet homme n'est-il délivré du poids de sa faute, sauf dans la mort, par le suicide qui est, dans le film, présenté comme un sacrifice altruiste, mais qui en réalité fait l'effet d'une rétribution, d'une sentence finale qui met un terme à sa vie, bien sûr, mais qui en plus le prive du bonheur qu'il aurait peut-être pu connaître avec cette femme dont il est tombé amoureux. Et deuxièmement, c'est un film plutôt pessimiste et lugubre, parce que les personnes de cette histoire qui connaissent le salut, celles qui bénéficient quelque part d'une grâce, celles qui reçoivent une vie nouvelle par le moyen du sacrifice ou des sacrifices de cet homme, ce sont les personnes dans le film qui sont les plus moralement vertueuses. Je l'ai dit, les personnes qu'il a jugées comme étant vraiment méritantes, qui méritaient de vivre une longue vie heureuse. Et c'est donc dans le film la loi du plus méritant. C'est l'apologie des œuvres, de ces œuvres par lesquelles nous pouvons, d'après le film, nous rendre dignes du bonheur. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que c'est une vision tyrannique de la vie. Parce qu'elle ne laisse aucun espoir, cette vision, à ceux qui ont une conscience aiguë de leur propre faiblesse morale. Si ce sont les personnes méritantes qui vont vivre longtemps et heureux, ben c'est pas moi. C'est tyrannique, c'est une mauvaise nouvelle. Tout ça pour vous poser une question aujourd'hui avant de lire le texte. Je suppose que personne dans cette salle se prétend irréprochable. Enfin, si vous pensez être irréprochable, levez la main, c'est le moment. Non, personne, ok. Donc, la question, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous avez fait de vos fautes? Qu'est-ce que vous avez fait de vos fautes? Vous avez peut-être été un jour à la place du héros de ce film. Peut-être même que vous y êtes ce soir à sa place. Vous êtes rongé intérieurement, secrètement, par le remords d'avoir commis des choses franchement inavouables. Qu'est-ce que vous diriez qu'on allume le vidéoprojecteur et qu'on fasse défiler sur le mur, là, derrière moi, tous vos actes et toutes vos pensées de la semaine? Qu'est-ce que vous diriez qu'on fasse ça pour tous vos actes et toutes vos pensées de votre vie et qu'on se limite au pire, parce que sinon on n'aurait pas terminé. Le psaume qu'on est sur le point de lire, je l'ai dit, c'est le psaume 130. Et bien, c'est un texte qui soulève précisément la question suivante, cette question qui tourmentait le héros de notre film. Que puis-je faire de mes fautes pour en être délivré? Que puis-je faire de mes fautes pour en être délivré? La réponse, comme on va le voir, est la suivante. Il existe une délivrance certaine et totale. C'est le pardon que Dieu nous présente. Alors voyons comment le psalmiste en parle dans ce psaume. C'est un cantique des montées, psaume 130. Des profondeurs de l'abîme, je t'invoque, Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des fautes, Éternel, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel. Mon âme espère et je m'attends à sa parole. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, et la libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël de toutes ses fautes. Avant de continuer, je vous invite à prier. Merci pour ta parole, Seigneur, elle est la vérité. Et notre prière maintenant, c'est que tu nous sanctifies par ta vérité, sous l'action de ton Saint-Esprit, et au nom de Jésus. Amen. Il existe donc une délivrance certaine et totale, c'est le pardon que Dieu nous présente. Et la première chose que fait le psalmiste dans ce texte, versets 1 à 4, il veut nous faire comprendre une idée simple, c'est que l'homme étant en proie à son propre péché, il n'y a que Dieu qui puisse le secourir. L'homme étant en proie à son propre péché, il n'y a que Dieu qui puisse le secourir. Alors vous avez remarqué que dans les trois premiers versets, le psalmiste insiste. Et notamment sous la forme de cette prière adressée à Dieu, il insiste sur le caractère désespéré de la situation dans laquelle il se trouve. Et cette situation, il nous le dit explicitement en verset 3, elle est due à son péché. Seigneur, si tu gardais le souvenir des fautes, qui pourrait subsister ? Le psalmiste ici, il est accablé par la conscience de son péché. Il est accablé par la conscience de la gravité de son péché aux yeux de Dieu. Si tu comptais, si tu gardais le souvenir des fautes, qui pourrait subsister ? Et par conséquent, il crie à Dieu. Des profondeurs de l'abîme, il invoque Dieu, il crie à Dieu, sachant que c'est lui seul qui peut faire quelque chose pour lui. Et donc il dit qu'il est, à cause de son péché, dans les profondeurs de l'abîme. C'est comme ça que s'ouvre ce chant, ce psaume, des profondeurs de l'abîme, je t'invoque. Les profondeurs de l'abîme, c'est une image destinée à nous faire comprendre le genre de perdition à laquelle le psalmiste est exposé à cause de ses fautes. C'est un terme dans l'hébreu qui désigne les profondeurs de la mer, ce qu'on appelle parfois les abysses ou l'abysse au singulier. Il faut savoir que dans l'Antiquité, on pensait que la mer était sans fond. Et pour cause, parce que personne n'aurait pu à cette époque-là explorer les grands fonds marins comme c'est aujourd'hui possible grâce à des sous-marins super sophistiqués, super solides. À l'époque, c'était juste impossible. On se penchait par-dessus le bord du bateau et qu'est-ce qu'on voyait ? Que du noir, à l'infini, profondeur infinie. Saviez-vous que dans la mer, à partir de 150 mètres de profondeur, il n'y a plus que 1% de la lumière du soleil qui transparaît encore ? 150 mètres, c'est pas si profond pourtant. Il n'y a plus que 1% de la lumière du soleil qui passe encore. Et au-delà de 1000 mètres de profondeur, le noir est complet. Il fait très froid là-bas en bas. Et bien entendu, la pression de l'eau est insupportable pour la plupart des organismes vivants. Vous savez jusqu'où la mer descend ? Jusqu'à quelle profondeur la mer descend ? En tout cas, à notre connaissance aujourd'hui, presque à 11 000 mètres de profondeur. Les profondeurs de l'abîme, c'est un lieu de ténèbres, de solitude, d'angoisse. Est-ce qu'on peut imaginer franchement un lieu plus horrible sur Terre ? J'ai réfléchi cette semaine. Est-ce qu'il existe sur Terre un endroit plus horrible que le fond de la mer ? Et encore, disons qu'on se limite à 1000 mètres de profondeur. Est-ce qu'il existe un endroit plus terrible que ça, plus horrible, où il n'y a pas de repère, où il fait tout noir, on est dans le froid ? Il n'y a pas de vie, pas de bruit. Dans la Bible, la mer représente généralement un lieu très hostile. Et à cause de ses profondeurs insondables, la mer était typiquement associée au mal et à la mort. Pour cette raison que dans le passage de l'Apocalypse qu'on a lu tout à l'heure, décrivant les nouveaux cieux et la nouvelle terre, le texte dit que la mer ne sera plus, parce qu'elle est associée au mal et à la mort. C'est le lieu de résidence des monstres marins. En fait, ce lieu d'oppression, dépourvu d'air, de lumière, de chaleur, vous savez quoi ? C'est une image de l'enfer. C'est une image de l'enfer. Vous savez, les premiers mots de ce psaume sont très connus en latin. C'est De Profundis. Il y a eu toutes sortes de morceaux de musique qui ont été écrits, qui portent ce titre. De Profundis, des profondeurs de la terre. En fait, il y a aussi Charles Baudelaire qui a écrit un poème intitulé « De Profundis » dans les fleurs du mal. Peut-être que vous avez étudié ça quand vous étiez au collège ou au lycée. Tout le monde étudie les fleurs du mal de Baudelaire. Non, vous n'avez pas fait une petite fiche de lecture là-dessus en préparation pour le brevet, pour le bac. Et dans ce poème, Baudelaire exprime très bien, et peut-être malgré lui, sûrement malgré lui, la nature de cet enfer où nous entraîne le péché. Je vais vous lire ce poème. J'implore ta pitié, toi l'unique que j'aime. Du fond du gouffre obscur où mon cœur est tombé, c'est un univers morne, à l'horizon plombé, où nage dans la nuit l'horreur et le blasphème. Un soleil sans chaleur plane au-dessus 6 mois, et les 6 autres mois, la nuit couvre la terre. C'est un pays plus nu que la terre polaire, ni bête, ni ruisseau, ni verdure, ni bois. Or, il n'est pas d'horreur au monde qui surpasse la froide cruauté de ce soleil de glace, et cette immense nuit semblable au vieux chaos. Je jalouse le sort des plus vils animaux qui peuvent se plonger dans un sommeil stupide, tant les chevaux du temps, lentement, se dévident. Mes amis, c'est là que le péché nous entraîne. Le péché nous sépare de Dieu. Et en enfer, le temps nous paraît si long qu'on jalouse le sort des animaux qui, eux au moins, peuvent mourir et oublier leur existence. Le péché nous sépare de Dieu. On fait l'expérience, dans une moindre mesure, de cette séparation de Dieu par rapport à l'enfer, déjà ici-bas, lorsque notre âme est tourmentée par le remords dû à nos fautes, lorsque on se rend compte qu'aucun remède ne semble être en mesure de nous délivrer, de nous guérir de ce remords. On fait l'expérience de cette angoisse dans ces cas-là. Mais on en fait l'expérience de façon ultime et complète dans l'enfer éternel dont la Bible parle, le feu de la Géhenne, et ainsi de suite. Dans ce lieu dont Dieu aura définitivement retiré sa grâce. Les 1% de soleil qui passe encore à 150 mètres de profondeur, même ça ne passera plus en enfer. Dans ce lieu où les hommes devront tout simplement subir les justes conséquences de leurs fautes. C'est ainsi que la Bible en parle. L'apôtre Paul le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de la lumière du soleil, privés de sa grâce. Ou encore, dans un autre passage, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, les conséquences du péché, c'est la mort. Le psalmiste a conscience dans ce texte de la gravité de la situation et il crie à Dieu des profondeurs de l'abîme. Et là, il y a un tout petit mot. 2 lettres en hébreu. 2 lettres qui font toute la différence au verset 4. 4 lettres en français. Mais. C'est toujours excitant quand il y a un mais dans la Bible. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. Pendant trois versets, le psalmiste a souligné le caractère désespéré de la situation dans laquelle il se trouvait. Et maintenant, il nous annonce une bonne nouvelle. C'est l'évangile dans l'Ancien Testament, hein ? Il y a un pardon possible pour l'homme. Et ce pardon, nécessairement, en raison des trois premiers versets, ce pardon ne peut venir que d'un seul endroit, que d'une seule personne, de Dieu, qui est tout-puissant. Mais il dit quelque chose de curieux à ce moment-là, au verset 4. Il dit que le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Est-ce qu'il ne vous aurait pas paru plus logique de dire « Tes châtiments sont très sévères, afin qu'on te craigne. » Vous voyez ce que je veux dire ? Non, le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. En fait, ce détail révèle quelque chose de très, très intéressant, et très important à mon avis, en ce qui concerne la posture du psalmiste dans sa prière de repentance. Ce n'est pas la perspective d'être condamné qui le fait craindre Dieu. Parce qu'en fait, il sait qu'il est déjà condamné. Il est déjà dans les profondeurs de l'abîme. C'est la perspective d'être gracié et délivré qui le fait craindre Dieu. Parce qu'en étant condamné, il sait que le pardon n'est possible que si Dieu lui accorde. Imaginez que vous soyez un criminel, croupissant au fond d'un cachot depuis des mois à attendre le jour de votre exécution. Et un jour, un garde vient vous chercher pour vous faire comparaître devant le roi. Et vous savez très bien, vous savez pertinemment que le roi, c'est la seule personne qui a le pouvoir de vous gracier. La seule. Il n'y a aucun autre espoir. Est-ce qu'à ce moment-là, au moment de votre comparution devant le roi, vous allez faire le fanfaron ? Franchement, je ne pense pas. Vous allez craindre le roi, parce que le pardon est auprès de lui. Vous savez que vous êtes déjà condamné. Vous allez le craindre parce que le pardon est auprès de lui, vous n'allez pas la ramener, vous n'allez pas fanfaronner devant lui. De la même façon, on pense généralement, en tant que croyant, hein, on pense généralement qu'il faut craindre Dieu parce qu'il menace de nous envoyer en enfer. Il est terrible ce Dieu, il faut le craindre, il faut avoir peur de lui parce qu'il menace de nous envoyer en enfer. Et en fait, parfois on est un peu présomptueux. Et on se dit qu'on est en bonne posture devant Dieu et que s'il faut le craindre, c'est pour ne pas être puni. En réalité, nous sommes, et c'est là la posture du psalmiste, c'est là le renversement de perspective qu'il faut faire dans son esprit. Nous sommes déjà, mes amis, en route pour l'enfer. Nous ne sommes pas en bonne position devant Dieu. Et nous devrions craindre Dieu parce que lui seul est en position de nous pardonner, de nous gracier et de nous faire changer de route. Alors c'est ce que le psalmiste a voulu nous faire comprendre, cette première partie. L'homme étant en proie à son propre péché, il n'y a que Dieu qui puisse le secourir. Mais dans la deuxième partie, versets 5 à 8, là il va tirer les conséquences de cette affirmation. Et ainsi, il veut nous faire comprendre que, cette fois, les promesses de Dieu étant parfaitement fiables, l'homme doit placer en lui tous ses espoirs. Les promesses de Dieu étant parfaitement fiables, l'homme doit placer en lui, en Dieu donc, tous ses espoirs. D'abord, au verset 5 et 6, le psalmiste va s'appliquer à lui-même cette leçon. « J'espère en l'Éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. » Et ensuite, au verset 7 à 8, il va appliquer cette leçon au peuple. « Israël, attends-toi à l'Éternel, car la bienveillance est auprès de l'Éternel, etc. » On remarque bien l'insistance du psalmiste, cette fois, sur cette idée de placer en Dieu ses attentes. Et il va rappeler les raisons pour lesquelles il serait logique de le faire. Et il le fait à la fin du psaume. La bienveillance est auprès de l'Éternel. La libération abonde auprès de lui. C'est lui qui libérera Israël. Voilà pourquoi il faut placer en lui ses attentes. Il y a une vraie délivrance auprès de lui. Une vraie délivrance. Mais qu'est-ce qui explique une telle confiance chez le psalmiste ? Qu'est-ce qui explique une telle conviction ? Eh bien, je crois qu'il nous donne la réponse au verset 5. Il dit « Je m'attends à sa parole ». Le psalmiste est en train de s'appuyer de toutes ses forces sur les promesses que Dieu a communiquées à son peuple. L'objet de la foi du psalmiste, ce n'est pas un Dieu inconnu, ce n'est pas un Dieu conceptuel, abstrait, un Dieu théorique, ce n'est pas le Dieu des déistes ou des théistes. Le Dieu du psalmiste, c'est le Dieu l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Dieu de l'Écriture Sainte, le Dieu d'Israël, le Dieu qui s'est révélé, qui s'est fait connaître par le moyen de ses prophètes, qui a fait des promesses, qui s'est engagé. le Dieu qui s'est fait connaître en paroles et en actes au fil de l'histoire. Des paroles et des actes qui permettent au psalmiste d'attester, comme il le fait d'une manière très claire et solennelle et affirmative, la bienveillance est auprès de lui. Il n'est pas en train d'inventer ces choses-là, le psalmiste. Il s'appuie, il s'attend à la parole de Dieu. Il s'appuie dessus, sur les promesses de Dieu. Il peut affirmer que la bienveillance est auprès de lui, que la libération abonde auprès de lui et qu'il libérera son peuple de toutes ses fautes. Le psalmiste sait tout cela, il est au courant grâce aux Écritures saintes, grâce à ce que Dieu a communiqué à son peuple par l'intermédiaire des prophètes. Et voilà pourquoi le psalmiste, la foi du psalmiste, s'appuie sur la parole de Dieu. Alors maintenant, j'aimerais que vous imaginiez que vous soyez terriblement endetté. Peut-être que vous n'avez pas besoin de l'imaginer, d'ailleurs. Imaginez que vous soyez terriblement endetté. Depuis des années, votre compte en banque est dans le rouge. Et vous payez toutes sortes de pénalités à la banque. Vous arrivez à survivre grâce au strict minimum, peut-être en faisant les poubelles comme pas mal de nos concitoyens le font de nos jours. Et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et vous vivez au quotidien dans une angoisse permanente. Et un jour, vous recevez un email, le genre d'email que vous avez tous déjà reçu, au moins une fois, dans votre vie si vous avez Internet. C'est un email envoyé par la veuve d'un homme d'affaires très riche au Burkina Faso. Qui vous propose de vous léguer 500 millions d'euros si vous lui communiquez le numéro de votre passeport et de votre compte en banque. Alors, on sait tous que ces emails sont des arnaques. J'espère que vous êtes au courant. Enfin, en tout cas, je vous l'annonce. Hein. Ne vous faites plus avoir. Mais imaginez maintenant que cette personne vous envoie, en plus de cet email, plusieurs garanties de l'authenticité de sa démarche. Disons, ses propres coordonnées personnelles, peut-être des photos ou des lettres manuscrites. Est-ce que ce serait suffisant pour que vous y croyiez ? Pas sûr, hein ? Imaginez que, ensuite, elle vous envoie un testament notarié, l'original. Et avec ça, même plusieurs actes authentiques signés par des huissiers. Vous y croyez ou pas ? Et il se trouve qu'elle va même venir vous rendre visite en personne. Et elle vient. Et elle vous présente un acompte de 100 000 euros en liquide qu'elle va déposer avec vous sur votre compte en banque. Vous y croyez là ou pas ? Est-ce que vous pouvez enfin vous fier à la promesse qu'elle vous a faite de vous léguer 500 millions d'euros ? Franchement, à ce stade, je pense que oui. Enfin, je pense que oui. Et à chaque fois que vous allez en douter, que ce soit vraiment vrai, vous allez peut-être... pour vous rassurer, pouvoir ressortir ces actes notariés, ce testament, et puis pourquoi pas le relevé de compte bancaire où les 100 000 euros vont y apparaître, noir sur blanc. Et en faisant cela, vous allez être conforté dans votre confiance en ce qui concerne l'héritage. Et vous allez peut-être vivre une vie un peu plus sereine, sachant que votre dette a été résorbée déjà par l'acompte. De la même façon, dans le texte, le psalmiste espère en Dieu en s'appuyant sur sa parole. En s'appuyant sur sa parole et en fonction de ce que Dieu a dit, en fonction de ce que Dieu a promis, en fonction de ce que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël, le psalmiste peut savoir pour sûr que l'Éternel est riche en miséricorde, qu'il pardonne, qu'il est un Dieu sauveur, qu'il compte libérer son peuple de tous ses péchés. Il peut le savoir pour sûr parce qu'il s'est écrit noir sur blanc. Dieu l'a dit, Dieu l'a attesté. Ça paraît incroyable, mais pourtant Dieu a attesté cette alliance, il a attesté cette réalité, ces promesses par une alliance, par un serment où Dieu lui-même, le Créateur du monde, s'est engagé. Il a donné sa parole. Il a juré par lui-même de le faire. Et non seulement il a fait ça, mais en plus, il est venu en personne, tellement il était engagé à réaliser sa promesse. Il est venu par Jésus-Christ, au plus près des hommes, réaliser, accomplir cette promesse par la mort et la résurrection du Fils éternel de Dieu. Jésus, Dieu fait homme, Dieu incarné, prend sur lui à la croix le poids des fautes, des péchés de tous les croyants. Il va en enfer à leur place. Il va dans les profondeurs de l'abîme, à leur place, à la place des croyants. Il se substitue aux croyants. dans ce lieu de ténèbres, de solitude et d'angoisse. Et là, dans ce lieu ténébreux, il s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus la lumière du soleil ?» Et il y est à notre place. Il s'est substitué à la place des croyants. Il a payé la dette de leurs péchés. Il leur a imputé sa justice. Et vous voyez, la promesse de Dieu de pardonner aux pécheurs a été attestée par un testament notarié signé avec le sang du Fils unique de Dieu. Est-ce que c'est pas fiable ? Et l'Écriture sainte tout entière, des premières pages aux dernières, rend témoignage à cette réalité, sous la plume de tous les prophètes, depuis Moïse jusqu'aux apôtres. Est-ce que vous y croyez maintenant ? Comme le psalmiste, vous pouvez espérer en l'Éternel, en vous appuyant sur sa parole. Le pardon de Dieu, c'est un peu comme l'argent sur le compte en banque. On ne peut pas le voir de nos propres yeux. Mais on peut le voir sur le relevé de compte. Ce relevé de compte, il est ici, dans les pages de la Bible. Consultez-le, ce relevé de compte. Relisez les promesses de Dieu. Voyez ce qu'il a fait et comment il l'a attesté. Appuyez-vous sur l'Écriture sainte, comme le psalmiste. Appuyez-vous sur ces promesses où le pardon des croyants est proclamé solennellement, comme dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, lorsque l'apôtre Paul déclare, non pardon, celui-là on l'a pas lu, c'est un autre, mais celui-là c'en est un autre. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. C'est une promesse solennelle, c'est votre relevé de compte bancaire où c'est marqué que la justice de Jésus-Christ vous a été imputée et vous n'êtes plus endetté. Voilà pourquoi je disais que dans cette deuxième partie, le psalmiste dans cette deuxième partie voulait nous faire comprendre que les promesses de Dieu étant parfaitement fiables, l'homme doit placer en lui tous ses espoirs, en lui et pas ailleurs. Alors j'en reviens à la question que j'ai posée en introduction. Personne dans cette pièce ne prétend être irréprochable. Alors qu'est-ce que vous avez fait de vos fautes ? Qu'est-ce que vous en avez fait ? Qu'est-ce que vous pouvez en faire pour en être délivré ? Et on a pu voir à travers ce psaume qu'il existait une réponse, un remède au tourment de notre âme. Il existait un remède au remords qui nous ronge et qui vous ronge peut-être encore cet après-midi en raison de ce qu'il y a dans votre cœur, en raison de ces choses inavouables, franchement, honteuses, que vous avez commises dans votre vie, en raison des paroles que vous avez prononcées, en raison des pensées que vous avez eues. Ne cherchez pas, comme le héros de notre film, ne cherchez pas à vous racheter vous-même, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Reconnaissez votre misère, comme nous dit l'Écriture. Reconnaissez que votre cœur est le même que celui de Marc Dutroux ou de Mohamed Merah. Vous avez le même cœur. Mais ne basculez pas non plus dans le désespoir. Car des profondeurs de l'abîme, Dieu vous entend comme il a entendu le psalmiste. Et il existe une délivrance certaine et totale. C'est le pardon que Dieu vous présente en son Fils Jésus-Christ. Appuyez-vous donc sur les promesses de Dieu, celles qu'il nous communique par sa parole, celles qu'il a accomplies par la mort et la résurrection de Jésus, celles qu'il a signées avec son sang. Ce pardon est si fiable, cette délivrance est tellement certaine qu'elle est, comme le matin, inéluctable. Et c'est ce qui fait dire au psalmiste que sa situation est comme celle du garde. Vous avez remarqué ce qu'il dit là, verset 6. Elle est comme celle du garde qui attend avec une profonde conviction la venue du jour. Il est sûr que ça va venir. Le jour va venir, le soleil va se lever. Et notre ami Tédoué, il est où Tédoué ? Il est là, Tédoué. Il sait de quoi parle le psalmiste, Tédoué. Parce que, si vous le savez peut-être pas, mais Tédoué est lui-même agent de sécurité. Et son travail, en tout cas jusqu'à récemment, consistait à surveiller les chantiers la nuit. De 8h du soir à 8h du matin, hein, c'est à peu près ça. Hein. Qu'est-ce qui fait tenir Tédoué vers 3h du matin ? Quand il est fatigué et qu'il y a l'obscurité et que ça lui paraît interminable, il sait que le matin approche. Il sait que le jour va venir. Il peut compter dessus, tellement c'est sûr. Et mes amis, si vous avez placé votre confiance en Dieu, vous pouvez être certain que non seulement votre compte en banque est crédité de la justice de Jésus, son Fils, et non seulement il vous a donné les prémices du Saint-Esprit en acompte, mais en plus, le jour approche, le jour de votre pleine et entière délivrance, le jour de votre entrée dans la gloire, où la mer ne sera plus. Amen. On prie. Seigneur, merci pour ces promesses que tu as faites à ton peuple depuis le début, qui sont si fiables. Seigneur, aide-nous à nous appuyer sur ta parole et à y trouver notre réconfort, notre secours, un remède efficace contre le poids de notre culpabilité, contre les remords. Et Seigneur, par l'esprit que tu nous as donné en acompte, transforme-nous, renouvelle-nous au quotidien pour que nous sachions marcher d'une manière qui soit digne de ce que tu as fait pour nous. Amen.